chapitre 20. Moïsès Korav vide la bouteille de mescal. Il aime boire face à la mer. Regarder les vagues en imaginant que c'est l'océan qui tangue, la terre entière, la galaxie, pas lui. Il aime s'installer le dos au palmier solitaire, un litre de mescal ou de tequila entre les jambes. Et se souvenir, même si les grues derrière lui projettent des ombres de dragons, même si les squelettes de béton des futurs palais de verre confisquent le soleil, même si le mur construit entre le sable et l'horizon l'empêche de voir l'écume du monde qui chavire, même si les ouvriers mexicains derrière lui martent au pic, tant pis. Il veut se souvenir. Se souvenir pour oublier sa honte. Moïsès a 13 ans, quand le monsieur en costume blanc entre dans la classe. Ils sont plus de 50 enfants par pièce dans la petite école de la Villa 31, le plus grand bidonville de Buenos Aires. Le monsieur parle en espagnol avec un accent étrange. Il dit qu'il est français et qu'il cherche des enfants qui parlent le toba. Tous les enfants rient. Aucun ne sait ce qu'est le toba. Une nouvelle danse? Un serpent à plumes? Une telenovela? Moïsès se cache au fond de la classe. Lui sait. Mais il ne veut pas le dire. Il ne veut pas que le monsieur le remarque. Comme s'il avait déjà deviné que c'était un piège. Le monsieur explique aux enfants que le toba est une langue parlée par moins de 50 000 personnes dans le monde, une toute petite communauté qui habite dans une région coincée entre la Bolivie et le Paraguay, mais presque tous les Tobas ont dû s'exiler après la destruction de leurs forêts, se disperser dans les très grandes villes d'Argentine ou du Brésil. Leur langue va disparaître. Déjà, des regards se tournent vers Moïsès. Ils savent qu'il est paraguayen. Que parfois, il utilise des mots étranges que personne ne comprend. Le monsieur explique encore qu'il cherche des enfants qui parlent toba pour traduire un livre dans cette langue, un livre français, un livre déjà traduit dans beaucoup de langues dans le monde, parfois des langues très rares, et ainsi, d'une certaine façon, ces langues sont sauvées. Le monsieur précise qu'il a de l'argent pour ça, pour les enfants qui voudront les aider. Et il ajoute que le livre s'appelle « Le Petit Prince ». C'est l'instituteur. Señor López y Planes, qui dénonce Moïsès, même si l'ado ne résiste pas bien longtemps avant de dire oui. Le travail n'a pas l'air compliqué, et il est bien payé, 1000 pesos. Pendant les mois qui suivent, Moïsès va se rendre toutes les semaines au lycée français avec 5 autres enfants tobas de Buenos Aires. Ils écoutent l'histoire du petit prince en espagnol et la traduisent en toba. Cela dure quelques mois. Ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a pas de mot en toba pour désigner un prince, ou une cravate, ou un réverbère. Heureusement, d'autres sont plus simples. Le soleil, la mer, les étoiles, les fleurs, le renard. Moïsès se débrouille bien, c'est ce que disent les professeurs. C'est parce que ce livre, Moïsès l'aime bien. Pas pour l'histoire d'amour entre le petit prince et sa rose. Les histoires d'amour, il n'y croit pas. Les filles qu'il voudrait, il n'a pas assez d'argent pour les approcher. Non. Ce qu'il aime dans ce livre, c'est ce que dit le petit prince sur son astéroïde. Par exemple, qu'il faut faire soigneusement la toilette de sa planète, pour éviter que poussent les baobabs. Le petit prince arrache les racines chaque jour. Moïsès a accroché au-dessus de son lit le plus beau dessin du livre. Cette planète prête à exploser entre les racines de 3 baobabs parce que le paresseux qui l'habite avait négligé 3 arbustes. Il aime l'idée qu'il faut s'occuper de sa planète. Parfois, quelques cousins de Buenos Aires racontent comment la forêt des Tobas au Paraguay a été rasée. Il n'en reste rien, pas même des routes ou des maisons qu'on aurait construites à la place. Juste de la gadoue pendant les pluies et de la poussière l'hiver. Moïsès a 15 ans lorsque Le Petit Prince en toba est enfin édité. Il est invité à une grande cérémonie à l'ambassade de France en Argentine. C'est lui qui est choisi pour prononcer le discours en toba devant beaucoup de gens très importants. Il est fier de monter sur l'estrade pieds nus, avec ses longs cheveux noirs et son nez d'aigle. Il impressionne les gens importants, même si son discours ne dure que 2 minutes. Il a traduit en toba cette phrase de Saint-Exupéry qu'on ne trouve pas dans Le Petit Prince. « Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Quand il se mêle à la foule qui boit du champagne et grignote des noix de cajou, les gens importants viennent le féliciter. Un homme aux cheveux gris lui précise que sa citation n'est pas de Saint-Exupéry, c'est une légende. Elle est en réalité tirée d'un proverbe amérindien ou africain, mais ce n'est pas grave. Le principal est le message d'espoir, et il lui propose de travailler avec lui. Pendant quelques années, Moïsès va être employé par des associations soucieuses de préserver l'environnement, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et les gens. Il navigue de contrat en contrat, un peu partout en Amérique latine. Quand il croise d'autres Tobas, à Rio, à Caracas ou Bogota, il se rend compte qu'il est l'un des seuls à posséder un métier, à ne pas boire, à avoir un espoir. Et à chaque fois, il rappelle que c'est grâce au Petit Prince. D'ailleurs, le Petit Prince, c'est son passeport quand il doit aller rencontrer des tribus en Amazonie ou au Chiapas, aller convaincre des indigènes dans les contrées isolées. Dès qu'il raconte cette fable, il capte l'attention des enfants émerveillés, des adultes étonnés, des vieux sages qui hochent la tête parce qu'ils comprennent. La rose est éphémère. Elle est menacée de disparition prochaine. Les hommes doivent être responsables de leur planète. Moïsès fête ses 20 ans à Manaus, au Lapa-Bar, quand Marie-Swann le contacte. Dans les rues de la capitale de l'Amazonie, cette blonde New-Yorkaise a l'air d'une extraterrestre tombée du ciel. Ou d'un petit prince tombé dans le désert. C'est peut-être ce qui le pousse à dire oui, à commettre cette folie. Marie-Swann a entendu parler de lui, de sa passion pour Saint-Exupéry, de son goût pour les voyages, de sa maîtrise des langues rares. Elle a fait le déplacement exprès de New York. Elle veut l'embaucher. Elle a de l'argent, beaucoup d'argent. Elle attend que le Lapa-Bar se vide, elle ferme la porte et elle lui offre à boire avant de lui révéler le reste. Quelques-uns des plus grands admirateurs du Petit Prince forment un club très fermé, le Club 612. Et il lui propose d'y entrer. Marie-Swann le fait boire encore. Il existe entre les lignes du conte une vérité cachée, un code à percer, un trésor à découvrir. C'est le but de ce Club 612, le trouver. Les membres du club sont âgés, ils ont besoin d'un chercheur de trésors jeune, débrouillard, capable de voyager, qui sait lire une carte, qui n'a pas peur de tout quitter. Moïsès a du mal à la croire, même si elle le fait encore boire. Alors elle lui dit d'attendre et elle revient avec des cartes d'état-major, des cartes marines, des plans de forêt, des itinéraires de randonnée. Elle lui dit que les cartes ont été fournies par un des 5 autres membres du club, le géographe, qu'il a beaucoup travaillé sur les lettres et les chiffres dans le livre et qu'il a échafaudé des théories. Moïsès va consacrer 15 ans de sa vie à la recherche du testament du Petit Prince. Il voyagera partout dans le monde grâce aux indices du géographe, à l'argent d'Ocodolo, aux relations de Marie-Swann, à la protection d'Isard. Il arpentera le désert de Port-Juby, les arrondissements de Paris, les rives de la Méditerranée, les plaines de Patagonie jusqu'à la Terre de Feu, la cordillère des Andes, les îles volcaniques de l'Atlantique et du Pacifique, jusqu'à ce que cette quête devienne une obsession. Jusqu'à ce qu'il se mette à boire autant que les autres Tobas. Jusqu'à ce qu'il échoue ici, d'abord au Guatemala, puis au Salvador. jusqu'à ce qu'il échoue. Il n'a rien trouvé. Et pourtant, s'il boit tant, c'est qu'il reste persuadé que cette vérité était là, devant ses yeux, invisible parce qu'il n'a pas su la voir avec le cœur. Il vide la bouteille de tequila, l'envoie se cogner sur celle de mezcal pour libérer une place au chaud entre ses genoux. Une petite place pour cette boîte rectangulaire posée à ses pieds. Il rit tout seul. Des années qu'il n'a pas reçu de courrier. Pas plus qu'il n'a reçu de visite. Avant de s'endormir, il regarde une dernière fois l'étrange plage murée, encerclée par l'immense chantier.